Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je vais donc poursuivre aujourd'hui sur Xu Zhetiao, ce fonctionnaire de la fin des Ming, mort en 1631, dont la très longue autobiographie, Le Xuepu, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, est tellement révélatrice, nous l'avons vu et nous allons continuer de le voir, aussi bien de sa personnalité que de l'environnement institutionnel et social dans lequel s'est déroulée sa carrière. Xu Zhetiao affirme plus d'une fois que cette carrière dans la bureaucratie, avec toutes les contraintes et les hypocrisies que même un non-conformiste comme lui est obligé d'accepter, avec aussi toutes les frustrations inévitables pour quiconque se soucie d'obtenir vraiment des résultats concrets, que cette carrière donc lui pèse, qu'il a la tête ailleurs et que son désir secret serait de ne pas être gardé dans l'administration. Mais Xu Zhetiao est aussi un homme d'action, à condition qu'on lui confie des responsabilités, bien sûr. Je dirais même qu'il se laisse volontiers prendre par l'action, malgré les doutes qui l'assaillent si souvent. Et c'est quelqu'un, par ailleurs, de politiquement responsable, au sens où non seulement il n'est que trop conscient de la situation grave et parfois catastrophique dans laquelle se trouve la dynastie à son époque, mais encore il est profondément imbu de son devoir d'agir dans la mesure de ses moyens et il a des opinions. Il n'est pas comme ses collègues de la capitale qu'il compare, nous l'avions vu la dernière fois, qu'il compare à des vers à soie tissant leur cocon pour être bien tranquille. Tout cela pour dire que sa carrière publique et son métier d'administrateur restent au centre de son autobiographie, qu'ils en sont l'axe principal, même si, et c'est évidemment très important, même s'ils n'envahissent pas tout le texte comme chez d'autres auteurs, loin de là. En fait, la raison pour laquelle, je pense l'avoir déjà plusieurs fois expliqué, pour laquelle l'autobiographie de Xu Zhetiao me semble si remarquable, c'est la façon dont l'histoire d'une carrière, prise on ne peut plus au sérieux, s'y imbrique avec celle d'une personnalité, avec ses préoccupations, ses ruminations, ses inquiétudes, ses intérêts, ses curiosités, et avec un sens accusé de l'ironie des choses de la vie. Et j'étais donc en train de suivre le fil de cette carrière et d'essayer de vous donner au moins une idée de tout ce qu'on apprend au passage sur l'administration des Ming et sur la vie politique au temps de Xu Zhetiao, sur la vie des bureaux, sur la sociabilité dans le monde des bureaucrates, ceci en tout cas lorsque Xu Zhetiao est en poste à la capitale, et sur beaucoup d'autres choses encore. Vous vous rappelez qu'après avoir passé l'examen du doctorat en 1610, Xu Zhetiao avait occupé deux postes de magistrat de sous-préfecture, de sous-préfet, enfin on dit magistrat, bien que ce ne soit pas simplement un juge, deux postes de magistrat séparés par environ un an de retraite forcé chez lui. Le premier à Shanghai, qui s'était terminé assez vite et pas très bien, d'où la retraite forcée, et l'autre donc à Tianxia, la capitale du Huguang, où Xu Zhetiao avait au contraire passé près de 5 ans et où il semble avoir particulièrement bien réussi. De Tianxia, ensuite, il avait été muté à la capitale en 1617, mais là, comme nous l'avions vu, par manque de relations, c'est ce qu'il dit, il s'était retrouvé dans un poste ultra modeste et où il n'y avait pas grand-chose à faire, au dépôt de charbon de bois du ministère des Travaux publics. Et comme nous l'avons vu aussi, la mort de son père et en fait de ses deux parents, qui vivaient avec lui à Pékin, sur le terrain où il y avait le dépôt, les deux sont morts donc dans un court intervalle de temps. La mort de son père l'oblige, après moins de 2 ans, à repartir dans son Zhejiang natal pour observer les 27 mois de deuil réglementaire. On dit toujours 3 ans, mais en fait c'est 27 mois. On est à ce moment-là à l'automne 1619. En revanche, le second séjour à Pékin de Xu Zhetiao, où il retourne en 1622, après la fin du deuil, est nettement plus substantiel sur le plan professionnel. Il est en effet nommé secrétaire dans un des départements du ministère de la guerre, et ce que je n'avais pas précisé, il s'agissait apparemment du département des nominations, le Wuxuan, c'est-à-dire les nominations, les choix des personnels militaires. Donc Wuxuan, Qingli Se. le département des nominations, qui gérait donc les carrières de tous les cadres de l'armée et qui semble en particulier avoir eu à donner son avis sur la désignation de hauts fonctionnaires envoyés dans des postes qui avaient des responsabilités opérationnelles importantes. Et Sujetio relate au passage certaines discussions à ce sujet où les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux ou alors n'osaient rien dire alors qu'on les pressait de se décider. Les responsabilités de Sujetio au ministère de la guerre pouvaient aussi l'amener à quitter la capitale pour des tournées d'inspection. Et j'ai mentionné à ce propos une tournée d'environ 3 semaines qui l'a conduit au nord de Pékin, par-delà la Grande Muraille. Une tournée dont le récit suggère que ce glacis important, situé donc juste au nord de la capitale et en face des fédérations mongoles, qui avaient plus d'une fois menacé Pékin sous les Ming pendant les deux siècles écoulés, que ce glacis donc était extrêmement dégarni, pour dire le moins. Tout de suite après cette mission, nous l'avions aussi vu à la fin, Sujetio prend un congé pour rentrer chez lui et donner une sépulture définitive à son père. Et ce nouveau voyage au sud va le tenir éloigné de son poste pendant plus d'un an. Après quoi, il regagne la capitale à l'extrême fin de l'année 1624 pour ce qui va être sa troisième et dernière expérience dans les bureaux du gouvernement central, et celle-ci aussi sera relativement brève. Et c'est donc là que je reprends le fil de mon exposé. Lorsque Sujetio se retrouve à Pékin au tournant de 1624 et 1625, la situation politique est extrêmement tendue, on pourrait même dire explosive. Pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'on est en plein affrontement entre les partisans du mouvement Donglin, dont j'ai déjà parlé, qui était revenu au pouvoir en 1620, après la mort de l'empereur Wanli, d'une part, et d'autre part, la clientèle de l'eunuque Wei Zhongxian, dont j'ai également parlé, lequel contrôle un empereur encore adolescent et qui est de toute façon un incapable. Jusque dans le courant de 1624, Wei Zhongxian était resté très prudent. Et en outre, le chef du grand secrétariat, un certain Ye Xiangao, qui a été vraiment un peu le pilier du grand secrétariat déjà depuis l'époque Wanli. Un des personnages importants de la vie politique pendant les 30 dernières années des Ming. Donc Ye Xiangao faisait tout pour arrondir les angles. Mais ça a été la rupture à partir du moment où les plus militants parmi les partisans du Donglin ont attaqué ouvertement Wei Zhongxian. Et tout cela va se terminer par une purge sanglante qui se poursuit justement dans les mois qui suivent, donc en 1625, lorsque Sujetio est à la capitale. Et ça va continuer encore l'année suivante. Sujetio se retrouve donc, à son retour dans ses bureaux, confronté à une situation qu'on pourrait dire éminemment dangereuse. Quelle est exactement son attitude par rapport à tous ces problèmes ? Il n'en parle pas beaucoup. Peu après son arrivée à Pékin, malgré tout, on trouve dans le Xuepu un paragraphe que je trouve intéressant où il manifeste une certaine réticence par rapport à deux des plus prestigieux leaders des réformateurs menés par le parti Donglin, eux-mêmes étaient plutôt des compagnons de route, deux lettrés qui ont été quasiment sanctifiés par la tradition et qui, aujourd'hui encore, sont regardés comme des héros par beaucoup d'intellectuels chinois. Et je veux parler de Zhou Yuanbia et de Zhao Nanxing. Donc, l'autre est donc Zhao Nanxing. Zhao Nanxing. Zhou Yuanbiao est né en 1551, mort en 1624, et Zhao Nanxing en 1550-1628. Ils n'interviennent pas vraiment dans notre histoire, mais c'était vraiment des personnages parmi les plus importants de l'époque. Le premier, donc Zhou Yuanbiao, qui était mort l'année précédente, en 1624, donc, avait été chef du censorat jusqu'à sa démission en 1622. Et à ce moment, il n'était revenu aux affaires que depuis 2 ans, après la mort de Wanli. Mais malgré cette courte présence de 2 ans, seulement son autorité était très très grande. Quant à Chao Nanxing, il était encore chef du censorat au moment du retour de Xu Zhetuo. Et il ne devait être chassé du gouvernement qu'au milieu de cette année 1625. Mais lui, au moins, n'a pas eu à subir les tortures et les exécutions dont étaient victimes tellement de ses amis politiques. Que dit donc Xu Zhetuo de ces deux personnages dans les 4 lignes qu'il leur consacre ? Il admet que lui-même, modeste lettré, ne saurait discuter de la valeur et de l'éminence de pareils personnages admirés dans tout l'Empire. Mais il se demande quand même si, d'une part, si l'académie fondée par Zhou Yuanbiao à Pékin en 1622, qui avait été aussitôt interdite, d'où sa démission, n'était pas, malgré tout, ce qu'il appelle une nuisance inutile, quelque chose de nuisible et d'inutile. Et il se demande aussi si la réhabilitation de Zhao Nanxing, après sa longue période d'exil sous le règne de Wanli, ce n'était pas une façon de tomber dans l'excès inverse. Littéralement, ce n'était pas une façon de rectifier les choses de façon excessive, d'aller trop loin dans l'autre sens. Et il dit que tout cela a eu pour seule conséquence que les lettrés indignes, les poussiaux de cheux, donc les mauvais éléments, répondaient aux aboiements et cherchaient à se placer comme disciples, c'est-à-dire disciples des nouveaux modèles en vogue, et que tout cela a fini par créer un désordre considérable. Il emploie plusieurs fois ce mot aboiement, fei, pour parler du débat politique pendant l'époque où les Donglin ont été aux affaires. En bref, la politique à ce niveau, tous ces bavardages, toutes ces palinodies, ce comportement de meute, pourrait-on dire, ce n'est visiblement pas quelque chose avec quoi Xu Zhetuo se sent confortable. En tout cas, le très long chapitre consacré à l'année 1625 dans l'autobiographie de Xu Zhetuo est remarquablement discret, pour le dire autrement, remarquablement, extrêmement allusif, sur les affrontements politiques très dramatiques qui ont marqué cette période. C'est seulement l'année suivante, alors qu'il vit chez lui au Zhejiang, après avoir été renvoyé de l'administration, dans les circonstances que nous verrons, c'est seulement l'année suivante donc qu'il fait allusion à l'attaque contre Wei Zhongxian, lancée en 1624 par un certain Yang Yan. Par Yang Yan, qui était un membre du censorat qui comptait parmi les plus virulents adversaires du parti des eunuques. Une attaque donc sous la forme d'un mémoire à l'empereur dans lequel étaient énumérés 24 crimes de Wei Zhongxian. Ce mémoire a marqué en fait le coup d'envoi de la guerre ouverte entre les eunuques et le parti Donglin et ses alliés. Mais si Xu Zhetuo parle du mémoire de Yang Yan, donc un an après, c'est plutôt pour le critiquer. D'après lui, il s'agissait d'un document prémédité, inspiré par un ressentiment nourri depuis longtemps. Il s'agissait aussi d'une liste d'accusations mélangeant tout et se contentant, et là encore il utilise la même métaphore, se contentant de faire écho de façon désordonnée au concert d'aboiements qu'on pouvait entendre dans la bureaucratie. Mais si ce chapitre consacré à 1625 contient finalement assez peu de choses sur toutes ces batailles, alors qu'elles étaient certainement au centre des conversations, en revanche, on y retrouve, en abondance le genre d'observations, d'anecdotes, de notations sur la vie des bureaux, de discussions entre collègues et de réflexions variées qui remplissaient déjà les sections de l'autobiographie consacrées au précédent séjour de Xu Zhetuo à la capitale. Il y parle aussi de différents problèmes administratifs et de réformes techniques qu'il conviendrait de faire. Mais pour ce qui est de la politique, pour y revenir, ce qu'évoque Xu Zhetuo, c'est plutôt une atmosphère de confusion générale, en dépit du fonctionnement toujours très policé du grand secrétariat, tel que le lui décrit un fonctionnaire subalterne de cette institution. Donc, c'est là que c'était l'interface, en quelque sorte, entre la bureaucratie et puis, d'un côté, de l'autre côté, les eunuques et l'empereur. Donc, malgré cela, la confusion règne. Et c'est un fait que Xu Zhetuo mentionne occasionnellement les abus de Wei Zhongxian, les promotions qu'il patronne, etc., et aussi sa rapacité. Et enfin, j'avais fait allusion la dernière fois au sentiment que lui inspire visiblement l'exécution de Xiong Tingbi, l'ancien général en chef du front de Mandchourie, que Xu Zhetiu avait rencontré à l'époque où il était magistrat de Tianxia, laquelle exécution était manifestement et ouvertement en fait une vengeance des eunuques et de leurs chefs et une manière de préparer le terrain pour les grands procès que préparait Wei Zhongxian contre ses ennemis. Et ça, Xu Zhetiu le dit explicitement. En fait, les discussions les plus intéressantes, en tout cas les plus précises, et parfois avec beaucoup de chiffres cités, concernent le financement et l'organisation de l'armée, où se posent d'énormes problèmes. Évidemment, Xu Zhetiu est bien placé pour se rendre compte que la capitale n'est pas vraiment défendue. Après tout, il est en fonction au ministère de la guerre et il peut observer les problèmes de près. Un des passages les plus intéressants et aussi les plus divertissants dans ce même chapitre raconte ainsi une inspection nocturne des gardes aux 9 portes de Pékin dont a été chargé Xu Zhetiu. Les 9 portes donc, de la ville, je vous avais déjà dessiné le plan qui est certainement plus facile à dessiner de tête que le Futian dont je parlerai tout à l'heure. Donc la ville intérieure et les 9 portes, il y en a donc 2 et 3. Donc il part de là, Tianmen je crois, et il suit la muraille dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une telle inspection, et il le précise, ça veut dire une chevauchée de quelques 20 km dans une bise glaciale, en passant d'une porte à l'autre. Et à chaque poste de garde, il peut constater que tout le monde dort. Dans certains cas, il se garde de réveiller le personnel, juste pour voir ce qu'ils vont raconter dans le rapport qu'ils doivent remettre le lendemain matin. Mais parfois, il n'hésite pas à faire battre les responsables. Par exemple, lorsqu'il constate qu'une partie des gardes se sont discrètement absentés pendant la nuit, d'autres gardes sont alertés à temps et se mettent à taper sur leurs gongs et leurs tambours pour montrer qu'eux ne dorment pas. Bref, c'est le relâchement général et Xu Zhetiu conclut que, malgré les objurgations répétées, on n'obtient rien si on n'y va pas en personne. Or, justement, les gardes des portes font le calcul qu'un fonctionnaire ne va jamais se livrer à une telle équipée au milieu d'une nuit glaciale. Quoi qu'il en soit, il faut croire que Xu Zhetiu a acquis une certaine réputation, car il apprend, tout à fait à la fin de 1625, que le ministre de la guerre en personne, un certain Gao Di, qui vient d'être nommé généralissime, de nouveau sur le front du nord-est de Mandchourie, Gao Di, il vient d'apprendre que donc Gao Di souhaite le prendre comme conseiller, littéralement comme participant à la stratégie, donc Zhan Hua, participer à faire des plans. Wu Zhetiu ne veut a priori pas en entendre parler, car il considère que ce sont des gens avec qui on ne pourrait pas travailler, il ne pourrait pas travailler, et que c'est un poste où de toute façon on ne peut rien réaliser. Mais les collègues à qui il demande d'appuyer son refus se récusent tous, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il reçoit l'ordre impérial le désignant comme conseiller du nouveau général en chef. Et lorsqu'il rencontre celui-ci le même jour, il lui dit qu'il a dû entendre sur lui des propos beaucoup trop élogieux, que lui-même ne s'estime pas compétent pour ce poste, et surtout qu'il ne va jamais à l'encontre de sa propre conscience. Ce qui veut dire, explique-t-il, que si dans l'avenir il agit contre sa conscience ou qu'il cherche simplement à plaire, il aura trahi la confiance de son nouveau patron. Ces résistances s'expliquent en partie à l'occasion d'une conversation avec un ami qu'il rapporte un peu plus loin, une conversation au cours de laquelle il exprime ses doutes sur la possibilité de changer de fond en comble les choses, comme le voudrait justement Gao Di. Gao Di est comme le propriétaire d'un champ qui voudrait faire pousser des plantes en changeant la terre parce qu'elle est inculte. Alors que tout ce qu'on peut faire, c'est de choisir le moment approprié pour planter. Et de fait, la patience et l'attente du moment approprié, c'est une attitude que Xu Zhetiu défend souvent ou illustre souvent dans le courant de son autobiographie et qu'illustrera aussi en particulier, comme on peut le voir à la fin de sa carrière, lorsqu'il se verra confier de véritables responsabilités stratégiques. Mais nous allons en parler dans un instant. Xu Zhetiu n'a donc aucune envie de suivre Gao Di en tant que conseiller spécial et il s'en tire finalement en envoyant au trône un mémoire dont il sait pertinemment qu'il va lui valoir d'être renvoyé de son poste. C'est un mémoire dans lequel il attaque violemment un certain Machelon, qui était un officier de carrière, qui avait été actif dans les années 20, enfin dans les dernières les années passées, sur le front du Nord-Est, justement, où il avait eu de hautes responsabilités, et il était le protégé du général en chef qui venait d'être renvoyé pour être remplacé, justement, par Gaudi. Machelon, d'après Sujetio, était très mauvais et très corrompu. Gaudi n'en voulait pas, mais malgré l'insistance de Sujetio, il n'osait pas l'attaquer, dire ouvertement qu'il ne voulait pas de Machelon, car celui-ci était protégé par Wei Zhongxian. Nous voici donc replongés en pleine politique. Et puisque Gaudi ne veut pas dénoncer Machelon, Sujetio décide de s'en charger lui-même. D'abord pour protéger Gaudi contre de futurs problèmes avec Machelon, et ensuite avec le secret espoir de se faire casser de ses fonctions si ses propos déplaisent. Si c'est bien ce qui arrive, dit-il, ce sera encore mieux. Il concocte donc un mémoire particulièrement virulent contre Machelon, un mémoire dont il montre le brouillon à des amis de confiance, lesquels lui disent que ce texte est très bon, mais que lui, il est complètement fou. À quoi il rétorque que si lui n'est pas fou, qui va alors se charger de l'être ? Et ici, le mot que je traduis par fou, ou stupide, et ça peut aussi signifier obsédé, c'est le mot tche, qui est un mot extrêmement... que nous avons peut-être déjà rencontré d'ailleurs... j'écris mal tche. Oui, excusez-moi, c'est mal écrit. C'est. Alors, attendez. Oui. Voilà. Tche. Je l'écris, non sans mal, parce que c'est un mot qui revient souvent dans le suépou, que ce soit lorsque Sujetio se laisse aller à des initiatives qui sont selon son cœur, mais dont il sait qu'elles ne peuvent que lui attirer des ennuis ou lui mettre tout le monde à dos, ou alors que ce soit plus simplement quand il a commis une erreur et qu'il dit « j'ai été idiot ». Et je reviendrai plus tard, de toute façon, sur l'importance de ce terme en général dans la psychologie, on pourrait même dire la culture, des lettrés de la fin des Ming. Sujetio envoie donc son mémoire et la réponse ne se fait pas attendre. Deux jours plus tard, on lui apprend que Wei Zhongxian est furieux. Et le jour même où il apprend cela, est promulgué un édit impérial fort sévère, évidemment inspiré par Wei Zhongxian, qui accorde au nouveau général en chef, donc à Gaudi, qu'il est compétent pour demander le renvoi de quiconque s'il considère que c'est nécessaire, mais qu'il faut qu'il le demande, mais qui proclame aussi que le mémoire d'un certain Su est tout à fait inapproprié et arrogant, et qu'en conséquence de quoi, le dit Su est rayé de la fonction publique et rendu à la condition d'homme du peuple, c'est-à-dire Sui Zhe Weimin, ce à quoi ont été condamnés d'innombrables fonctionnaires qui déplaisaient sous les Ming. Donc ses fonctions sont abolies et il redevient un Min, c'est-à-dire un citoyen ordinaire, un homme du peuple et non plus un Guan. Sui Zhe Weimin. Les choses sont donc allées très vite, et comme le remarque Sujetio lui-même après coup, il ne s'est écoulé que 10 jours entre sa désignation officielle comme conseiller de Gaudi et son renvoi définitif de l'administration. Je parlerai plus tard des sentiments mélangés qu'avoue avoir éprouvé Sujetio en recevant sa destitution au cours d'un banquet avec ses amis, et plus tard lorsqu'il a constaté que son nom avait disparu de l'annuaire de la fonction publique publié tous les 3 mois. Ce sont en fait des pages, lorsqu'il parle de ça, il en parle assez longuement, que je trouve tout à fait étonnantes, même dans une autobiographie de la fin des Ming. Et j'y reviendrai donc lorsque je récapitulerai la semaine prochaine tout ce que nous apprend le Suépou sur la psychologie du personnage. Cela étant, si la carrière de Sujetio comme conseiller stratégique s'est arrêtée avant même d'avoir commencé, et c'est bien ce qu'il souhaitait, sa carrière tout court n'aura en fin de compte été qu'interrompue par cet incident. Après la mort du jeune empereur, donc de Taizi, et le suicide de Wei Zhongxian en 1527, Sujet Thiot va en effet être rappelé par le gouvernement et pendant ces dernières années, il va être cette fois un conseiller stratégique très influent, non pas sur le front du Nord-Est en l'occurrence, mais au Futian, au bord d'un océan infesté de pirates et de hors-la-loi. Sujet Thiot quitte Pékin à la fin de 1625, quelques semaines après son renvoi de l'administration et reprend la route du Sud pour rentrer chez lui au Zhejiang. La totalité des deux chapitres de l'autobiographie qui suivent, c'est-à-dire correspondant à 1626 et 1627, est consacrée à sa vie à Suzhou, qu'il ne quitte que pour faire de rares voyages, et la politique en est remarquablement absente, du moins jusqu'à la fin de 1627, lorsque la mort de l'empereur Tianxi et l'accession au trône de son successeur, c'est-à-dire l'empereur Chongzhen, qui a été donc le dernier souverain des Ming, tous ces noms d'empereurs que je cite ne sont pas strictement parlés leur nom, mais le nom de l'ère de leur règne. Mais on les désignait couramment par ce nom d'ère pour parler d'eux. Fin 1627, l'empereur Chongzhen succède à Tianxi et cette succession va encore une fois complètement bouleverser la donne. J'ai déjà mentionné l'une des rares allusions aux événements de l'année précédente qu'on y trouve, donc dans l'autobiographie, celle aux mémoires, ou plutôt dans l'année 1626, celle aux mémoires de Yang Lien contre Wei Zhongxian. Et si Sujet Thiot y fait allusion, c'est pour comparer le mémoire de Yang Lien au sien, celui où il attaquait Ma Shelong et qui a pour le moment mis un terme à sa carrière. Son mémoire à lui, dit-il, contrairement à celui de Yang Lien, n'avait pas été longuement prémédité et il disait exactement l'essentiel. Simplement, il reconnaît qu'il était peut-être un peu bâclé. Il dit tsao tsao. Et si à Suzhou, les jeunes de la famille consultent avidement la Gazette de Pékin, qui est appelée à ce moment-là, enfin dans ce passage, la Gazette de la Cour, Chao Bao, et lui raconte toutes les choses effrayantes qu'on y trouve, lui-même n'en parle pas de ces choses effrayantes et il se contente de leur dire que s'ils sont aussi choqués, littéralement aussi étonnés et effrayés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore assez étudié. Entendons, leur culture historique est encore trop lacunaire. Avec le temps, ils s'y habitueront. Sujet Thiot s'installe donc dans une vie d'ermite, ou disons de lettré retiré des affaires. Contrairement à d'autres auteurs d'autobiographie, pas très nombreux, il est vrai, il ne nous dit rien de précis sur ses moyens d'existence. Sinon pour remarquer à plusieurs reprises qu'il est obligé de vivre assez petitement, mais que grâce à ses habitudes plutôt austères, ce n'est pas vraiment un problème. Cela étant, on ne peut certainement pas dire que c'est la pauvreté. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de raison ici de m'attarder outre mesure sur tout ce que contiennent ces deux chapitres, notamment celui sur 1626, qui est encore une fois un des plus longs de l'ouvrage. Pour en donner simplement une idée, malgré tout, on y trouve d'abord quelques notations intéressantes, mais à vrai dire très limitées, sur la négligence de l'administration locale, dans l'accomplissement, tel que l'observe donc sur place Sujet Thiot, dans l'accomplissement de certaines de ses responsabilités. Il cite en particulier deux exemples qui sont à vrai dire de niveau d'importance assez différente, à savoir d'une part la baisse considérable des réserves de grains publics mobilisables en cas de disette par rapport au règne précédent, donc depuis 7 ou 8 ans, et d'autre part le laisser aller dans l'accomplissement des banquets ruraux, des xiangyin, à l'occasion desquels les fonctionnaires étaient supposés honorer les vieux paysans s'étant signalés par leur comportement exceptionnellement vertueux. Et ces banquets ruraux, pour les fondamentalistes, c'était considéré comme très important. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, on rencontre des fonctionnaires qui prenaient ces manifestations tout à fait au sérieux. Mais la plupart s'en fichaient. On y trouve ensuite, dans ces deux chapitres, énormément de descriptions à l'occasion des déplacements touristiques que Sujet Thiot fait très fréquemment dans la région. Des montagnes qu'il escalade, il se fait aider, mais pas toujours, des sites fameux qu'il va visiter, etc. Son plus long voyage pendant cette période le conduit jusqu'à Hangzhou, la capitale de la province, qu'on atteint depuis Suzhou en quelques jours en descendant simplement la rivière. À ce sujet, d'ailleurs, je crois qu'on peut légitimement dire que le rapport de Sujet Thiot à la nature est à la fois très direct et très profond. Je veux dire que, au-delà des propos conventionnels des lettrés sur la communion avec la nature, l'idéal de l'ermite perdu au fond des montagnes, etc., toutes ces choses qui ont été popularisées par tellement de rouleaux et d'albums appartenant au genre de la peinture lettrée, justement, qu'au-delà de tout cela, donc, Suzhou Tuo, qui, autant que j'ai pu le voir, ne parle jamais de peinture, donne de certains sites naturels où il a tenu à se rendre des descriptions que je trouve à la fois d'une beauté et d'une immédiateté, et aussi d'une simplicité dans le style tout à fait prenante. Plus tard, d'ailleurs, ou plutôt en outre, pendant son séjour au Fujian, il consignera dans son autobiographie, c'est-à-dire dans son journal, qui en est la source évidemment, deux descriptions du lever du soleil sur la mer, vues depuis des sommets, où il a obligé ses gens à l'amener en pleine nuit, qui sont à mon avis d'une beauté saisissante. On rencontre également, toujours pendant ces deux années 1626 et 1627, et en beaucoup d'autres endroits de l'autobiographie bien sûr, une abondance de réflexions et d'observations sur tous les sujets imaginables, qu'ils soient de nature philosophique, éthique, religieuse, ou qu'ils portent sur des sujets beaucoup plus ordinaires. Et une large proportion de ces réflexions et de ces observations sont formulées à l'occasion des conversations qu'il a avec ses amis, il a toute une série d'amis près de chez lui, dont les noms reviennent sans cesse, ou avec, qui sont des lettrés, ou avec les jeunes de sa famille, notamment un de ses fils, qui est une présence constante et qu'il désigne toujours par le sobriquet Xiseng, le moine occidental. Et j'ai mis un certain temps à identifier ce Xiseng comme le fils de Suzhou Tuo. Au début, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce moine occidental? C'est d'ailleurs indien. Mais en fait, c'est un sobriquet. Et il a également un fils plus jeune qui s'appelle, lui, l'esclave de Bouddha, le Fonu. Alors, je pense que Xiseng est en fait le fils, celui qui avait un peu réussi dans les, disons, dans les études lettrées et qui avait édité et publié l'autobiographie. Mais je ne peux pas vraiment l'établir. Or, quoi qu'il en soit, une bonne partie de ces conversations se déroule dans un jardin, c'est-à-dire une sorte de domaine avec des maisons, situé assez loin de la résidence familiale en ville, que Suzhou Tuo s'est fait aménager peu après son retour à Chuzhou, avec l'intention explicite d'y finir ses jours en se consacrant à l'étude. Ce jardin, il l'a baptisé Xijang, qui est une expression, il dit toujours « je vais au Xijang », etc., qui est une expression qui vient en fait du Shan Writing, c'est-à-dire du classique de la géographie historique en Chine, et qui peut avoir deux sens en fait, qui peut signifier soit une terre qui se renouvelle d'elle-même, une terre inépuisable si vous voulez, soit simplement un endroit où on se pose, où on réside. Et en effet, Suzhou Tuo, qui va consacrer beaucoup de temps et d'attention à ce jardin pendant ces deux années, vient régulièrement s'y installer, c'est là qu'il reçoit ou qu'il emmène ses amis, ses frères ou les jeunes de la famille, et c'est là aussi qu'il peut contempler la nature, appuyé à la rambarde, comme il dit souvent, et se livrer à d'innombrables observations sur les plantations auxquelles il ne cesse de procéder avec une combinaison tout à fait intéressante et peut-être typique d'horticulture et de philosophie. Comme je l'ai dit, et comme il le dit lui-même, Suzhou Tuo s'est installé là pour la fin de ses jours. Il est âgé à ce moment de 52 ans. Un jour de la fin de l'automne 1626, alors qu'il est en train de soigner ses orangers avec ses frères, l'un d'eux fait venir un devin qui pratique une méthode dite du camphrier du saule. C'est un terme apparemment connu et une méthode qui semble, je ne sais pas en quoi elle consistait, avoir été populaire dans le sud de la Chine. On donnait les 8 caractères correspondant au moment de sa naissance et le devin consultait je ne sais pas quoi et vous disait l'avenir et le passé. Suzhou Tuo affirme qu'en général, il n'y croit pas trop, mais il accepte d'essayer. Le devin se montre d'abord remarquablement efficace pour deviner le passé. Mais qu'en est-il pour l'avenir? Suzhou Tuo lui demande d'abord de prédire ce qui va se passer sur le front oriental, c'est-à-dire en Mandchourie. Et l'autre lui répond qu'on peut espérer le retour à la tranquillité en 1628 ou 1629. Il donne toujours les années en caractère cyclique, bien sûr. Et c'est un fait que ces deux années ont vu un rétablissement relatif, mais hélas très provisoire, de la situation grâce à la nomination d'un général particulièrement expérimenté nommé Yuan Chongruan par le nouvel empereur. Je n'écris pas son nom parce qu'il ne réapparaît pas dans l'histoire. Quelqu'un pose alors la question de l'avenir de Suzhou Tuo lui-même. Et là, le devin répond qu'à tous les coups, Suzhou Tuo sera vengé de ses avanies l'année prochaine. En réalité, Sujetio n'a été rappelé aux affaires qu'au début de l'année suivante. Mais peu importe. Je raconte tout cela parce que sa réponse sur le moment, c'est « Moi, je me contente d'être ici à planter des légumes. Je n'ai aucune autre ambition. » Mais ça fait plutôt rire le devin. Et en fait, je reviendrai plus tard sur ce que Sujetio pense lui-même de sa propre réponse. En tout état de cause, les choses vont en effet bouger au bout d'un certain temps. J'avais dit que la politique était quasiment absente de ces pages qui couvrent la période de retraite de Sujetio après son limogeage. En réalité, on la voit réapparaître à la fin de 1627 à travers quelques allusions à la situation à la capitale au cours des conversations ou lorsque Sujetio fait remarquer au passage le nombre ridicule de personnages portant le titre de ministre ou de vice-ministre tel qu'il a pu le constater dans l'édition d'hiver de l'annuaire de la fonction publique, c'est-à-dire le Tinshun Xuanshu. Ainsi, il y a 5 ministres rien que pour le ministère des Finances et ainsi de suite. Il ne commente pas, il cite tous ces chiffres ridicules, mais je suppose que l'implication est que tous ces gens portant des titres prestigieux, qui les font paraître à leur avantage dans cet annuaire qui était une sorte de gotha de l'aristocratie mandarinale, mais n'exerçant évidemment aucune fonction réelle, que tous ces personnages ne peuvent être que des sycophantes, des protégés de Wei Zhongxian, lequel avait à ce moment tous les pouvoirs d'un dictateur. Mais pas pour longtemps. L'entrée qui fait suite à cette remarque de Sujetio annonce la nouvelle reçue, là encore par la Gazette de Pékin, de la déconfiture de Wei Zhongxian, justement. Il a été châtié, mais on ne sait pas encore très bien pourquoi. Cette entrée n'est pas datée, mais peu importe. Nous savons par ailleurs, enfin tout le monde sait, c'est dans les textes, que l'empereur Tianxi est mort le 30 septembre 1627, que Wei Zhongxian a été envoyé en retraite le 8 décembre, que son arrestation a été ordonnée quelques jours plus tard et qu'il a préféré se suicider. En tout cas, dit Sujetio dans son autobiographie, tout le monde est ravi. On apprend qu'un grand nombre de ceux qui avaient été chassés du gouvernement sont en train d'être rappelés et tout cela montre qu'à présent, l'on a affaire à un souverain réellement exceptionnel. Mais, se demande aussi Sujetio, ces ministres intègres de nouveau au pouvoir sauront-ils faire face à leurs responsabilités ? Mais quelque opinion qu'il ait pu avoir des adversaires de Wei Zhongxian, donc qui sont maintenant rappelés au pouvoir, ce retour aux affaires de ces gens qu'il appelle les justes, Chuzhong, les gens qui sont dans le juste milieu, confirmés par les livraisons successives de la Gazette, réjouit évidemment Sujetio, et bien sûr, ça s'arrose abondamment. Mais son retour aux affaires à lui. Tout le monde proclame qu'à présent, on ne peut plus refuser de servir l'État. Mais tout en approuvant, Sujetio reste sceptique, voire même pessimiste. De la même façon qu'il doutait que Gaudi fût capable de tout réformer d'un seul coup dans le Nord-Est, de même à présent, il se demande si on arrivera à changer quoi que ce soit à l'environnement délétère et ruineux du palais impérial avec toutes ces femmes, ces eunuques, ces acteurs, etc., sans quoi même un gouvernement totalement rénové sera incapable de réaliser quoi que ce soit, a fortiori si tous ces gens que l'on voit soudain converger pour revenir aux affaires, sont des beaux parleurs dénués de substance. Donc tout est menmien, tout est dans la face, et c'est du kongtan, des propos vides de sens. Et pourtant, il va falloir se décider. Au printemps de l'année suivante, 1629 donc, à peu près 2 mois après ces informations sensationnelles, on apprend qu'un édit impérial a attribué les insignes de général en chef à un certain Xiong Wen-san et a ordonné au ministère des fonctionnaires, au Libou, d'attribuer sans attendre un poste à un certain Xu, c'est-à-dire Sujetio. Il dit toujours un certain, mais je pense évidemment dans le document original, son nom était en entier, mais c'est sans doute par modestie qu'il dit Xumo. Hein. Donc Xiong Wen-san. Wen-san, alors ça c'est un san un peu compliqué. Oui. Voilà. Xiong Wen-san. Donc Sujetio, lequel l'édit dit d'attribuer le plus rapidement possible un poste à ce Xu, qui est connu pour son expertise en matière militaire. Ces nominations concernent en fait la province du Fujian, ce que ne précise pas à ce moment le Suépu. Tout le monde presse Sujetiu d'écrire à la capitale pour avancer ses affaires, mais il s'y refuse absolument. Et 3 mois plus tard arrive l'information qu'il a été promu au rang d'intendant en charge des affaires maritimes, donc au Fujian, donc de Haidao. Le poste d'intendant Tao ou Tao Tai se situait à mi-chemin entre le gouvernement provincial et les préfectures. Ça pouvait être, c'était souvent des postes spécialisés dans certaines fonctions et ça pouvait être des postes importants. Et dans ce cas, c'en est un. Mais là encore, Sujetiu refuse de bouger malgré l'insistance de ses amis et des fonctionnaires locaux et il finit par faire savoir qu'il ne sortira de sa retraite que le jour où il recevra un édit impérial en bonne et due forme et qu'il sera en mesure d'accomplir les rituels prescrits lorsqu'on est nommé à quelque chose et de revêtir les vêtements et les insignes d'un fonctionnaire et donc de manifester par là, devant tout le monde, que l'empereur l'a édit extrait des rangs du peuple ordinaire, c'est-à-dire Qi Wo Yu Bianmin. Bianmin, c'est les gens qui sont soumis au recensement, c'est donc les gens... La populace, si vous voulez, enfin les gens qui n'ont pas de statut. Donc, lorsqu'il aura été extrait des rangs du peuple ordinaire, où l'avait précipité sa radiation des cadres en 1626. En d'autres termes, qu'il aura été réhabilité. Et il faut croire qu'il a fini par le recevoir, cet édit, puisque 2 semaines plus tard, c'est au début du 7e mois lunaire, Sujetiu accomplit en effet tout ce rituel, va officiellement rendre visite au préfet de Chuzhou et aux autres fonctionnaires locaux et se met en route pour le Fujian. Il arrive à Fuzhou le 3 septembre 1628 et le poste qu'il occupe est donc intendant des affaires maritimes. Mais dans les faits, il est un des principaux conseillers et exécutants de Xiong Wensan, lequel a été nommé pour sa part grand coordinateur, c'est-à-dire Xunfu, un terme que j'avais déjà signalé, du Fujian, c'est-à-dire une sorte de général en chef avec les pleins pouvoirs placés au-dessus des chefs de la province dans la hiérarchie régulière, c'est-à-dire au-dessus des 3 surintendants. Comme on les appelle parfois, celui aux affaires administratives, celui à la justice et celui aux affaires militaires. Et en effet, Sujetiu participe à maintes réunions avec Xiong Wensan en compagnie des surintendants et d'autres hauts personnages. Autrement dit, il est à présent au cœur du pouvoir et avec de très lourdes responsabilités. Le Fujian est un environnement totalement différent de ce qu'avait connu Sujetiu dans ses fonctions précédentes. Que ce soit à Shanghai, donc la partie orientale de la plaine du Jiangnan, du delta du Yangtze, ou que ce soit à Jiangxia, donc en Chine centrale, sur le moyen Yangtze, ou encore à Pékin, où, comme nous l'avons vu, il a eu l'occasion de circuler dans les régions frontalières au nord de la ville. Le Fujian est une région côtière, une province côtière, comme la région de Shanghai, mais contrairement à celle-ci, comme le Jiangnan oriental, mais contrairement à celui-ci, il s'agit d'une côte extrêmement accidentée, avec un arrière-pays pauvre et montagneux, et jusqu'au bord de la mer, un relief très compartimenté, lequel explique en partie la multiplicité des dialectes parlés au Fujian. Bien plus que le Baiyangtze, où se trouve Shanghai, le Fujian est une région tournée vers la mer, et il en tire une part importante de ses revenus, surtout dans les préfectures prospères qui s'échelonnent du nord au sud le long de la côte, notamment Fuzhou. Alors là, je vais faire, non pas une carte, mais disons un schéma. Donc, si l'estuaire du Yangtze, et vous avez le Zhejiang, le Fujian, et puis le Guangdong canton. Et donc là, s'échelonne, il y a une préfecture qui s'appelle Funing, le long de la côte, il y en a d'autres dans l'intérieur, qui s'appelle Funing. Mais ensuite, la capitale provinciale, Fuzhou. Puis 3 préfectures très importantes, qui sont Xinhua, Quanzhou. Ça, je l'écris parce qu'il va être question. Et enfin, Zhangzhou. Donc, chacune de ces préfectures contrôle un territoire, mais est adossée à la mer. Et puis, vous avez d'autres préfectures dans l'intérieur, mais qui sont un autre pays, en fait. sous les Song du Sud, et à l'époque mongole, c'est-à-dire en gros entre 1200 et 1350, le Fujian était une des régions les plus prospères et les plus développées de l'Empire, et Quanzhou, en particulier, était appelé Zaitun dans Marco Polo, était le port commercial le plus important d'Asie orientale. Cette prospérité avait ensuite décliné, mais le commerce maritime avait de nouveau décollé avec l'ouverture d'un port appelé, enfin qui a plusieurs noms en fait, mais qui est connu, que, dont Xu Zhetiu parle sous le nom de Haicheng, qui était en fait le port en avant de, qui était situé là, en avant de Quanzhou. Haicheng. donc l'ouverture de Haicheng comme seul port autorisé pour le commerce d'outre-mer en 1567, ceci venant après une longue période de contrebande et de piraterie. Avant cette régularisation, en effet, la situation le long de la côte du Fujian et plus au nord de celle du Zhejiang, où la région de Ningbo était un autre centre important de commerce maritime illégal. Donc, vous avez l'estuaire du Tientang ici, avec Rangzhou, et Ningbo est situé à peu près là. Donc, les deux centres de la contrebande et du commerce international étaient Quanzhou et Ningbo. Donc, avant cette régularisation, la situation était caractérisée par un système inextricable d'alliances économiques et parfois même matrimoniales entre les grandes familles résidentes, dont beaucoup étaient protégées par un impeccable pedigree académique, et toute une population de contrebandiers et de pirates, dont tous n'étaient d'ailleurs pas chinois. Tous ces gens faisaient donc fonctionner un système d'échange maritime illégal, dont il n'est pas nécessaire de décrire ici les mécanismes passablement compliqués, et où, à partir d'un certain moment, sont venus, c'est important aussi, s'agréger des acteurs européens, c'est-à-dire les Portugais et les Hollandais. Et il est assez souvent question des Hollandais, enfin plusieurs fois question des Hollandais dans le texte de Xu Zhetiu. Il les appelle évidemment les cheveux rouges, hein, les Hongmao. Ces échanges ont été en tout cas un des principaux moteurs de la croissance chinoise au XVIe siècle. Mais ces réseaux associant notables de la côte et contrebandiers basés au large et basés jusqu'au Japon et en Asie du Sud-Est, ces réseaux ont connu un certain nombre de graves dysfonctionnements dans la première moitié de ce même siècle, de ce même XVIe siècle. Des dysfonctionnements qui se sont traduits par des affrontements violents et des désordres de toutes sortes, y compris les fameuses attaques de ceux qu'on appelait les pirates japonais, c'est-à-dire les Woko, qui n'étaient pas tous japonais, en fait, loin de là, au milieu toujours du XVIe siècle. Les Woko, c'est-à-dire les bandits. Alors, Wo, ça veut dire littéralement des nains, et donc des bandits. Et c'est encore un terme un peu méprisant pour parler des Japonais en chinois, de parler de Wo, les nains. Donc les Woko, et ces attaques ont été dévastatrices dans de nombreuses régions, tout le long de la côte, toute la côte au sud de l'estuaire du Yangtze. Et le souvenir des Woko est encore très vivace au Fujian à la fin des Ming, au moins deux générations après, comme on peut le voir à plusieurs reprises dans les souvenirs de Xu Zhetiu. Et c'est donc pour mettre bon ordre à tout cela que le gouvernement des Ming est intervenu militairement à plusieurs reprises au milieu du XVIe siècle et massivement, et qu'en fin de compte, le commerce d'outre-mer a été légalisé et taxé à partir du seul port de Haicheng, donc Quanzhou. Dans les années 1620, celle qui nous concerne ici, la situation était cependant très loin d'être celle d'un marché transparent et bien contrôlé. C'était en fait le désordre le plus complet et la principale raison à cela, semble-t-il, c'était que le commerce, bien que continuant de se développer, grâce à la demande de la Chine intérieure et principalement les riches villes du Jiangnan, grâce aussi à la demande des marchés d'outre-mer, que le commerce, malgré tout, était devenu moins rentable à cause d'une très forte baisse des prix depuis la fin du XVIe siècle et de moins en moins rentable. Et du coup, la concurrence était plus intense et surtout la piraterie et la contrebande prospéraient plus que jamais et prospérait d'autant mieux qu'elle servait d'exutoire à toute une population de déclassés, de paysans et de pêcheurs appauvris qui essayaient de survivre le long de la côte. Et c'est précisément pour réduire une bonne fois la piraterie qui s'attaquait non seulement aux navires marchands en haute mer, voire aux bâtiments militaires, mais aussi aux villes et aux points d'appui militaires le long de la côte, où l'armée était incapable de leur tenir tête. C'est donc pour réduire une bonne fois la piraterie que Xiong Wensan et Xu Zhetuo avaient été envoyés à Fuzhou en 1628. Anéantir militairement les principaux groupes de pirates était à peu près exclu. Tout d'abord par manque de moyens et parce que les forces disponibles étaient en piteux état, mais aussi à cause de leur extrême mobilité et de la facilité avec laquelle ils pouvaient se replier au loin en cas de nécessité. En revanche, on pouvait essayer de les intimider par des démonstrations de force au bon moment et au bon endroit et les encourager à se soumettre en échange de l'impunité, ou plus exactement, de les rallier à la cause du gouvernement en leur promettant des honneurs, des grades militaires et des moyens surtout, afin qu'ils contribuent à combattre et à pourchasser leurs anciens collègues, ceux qui ne voulaient pas entendre parler de soumission. Le terme technique pour cette politique d'apaisement, c'est bien sûr « fou », dont le sens premier est « caresser », et qui s'oppose simplement à divers termes qui signifient « tiao », surtout, qui signifie au contraire « attaquer » et « exterminer ». Donc, politique d'apaisement, la politique d'apaisement s'appelle et est toujours dite « fou ». On fout quelqu'un, ça veut dire qu'on le rallie au gouvernement. Et ce genre de négociation, en fait, était assez spécial. Les chefs de la piraterie n'étaient pas des ennemis venus de l'étranger, ce n'étaient pas non plus des rebelles, c'était au contraire des gens issus de familles de la région et parfois de familles en vue avec lesquelles ils restaient au contact. Si bien qu'on pouvait très bien faire pression sur eux ou simplement les atteindre par ce canal. Et qu'une fois qu'ils s'étaient soumis, ils retrouvaient simplement leur base sur la terre ferme. Mais il arrivait aussi que les autorités envoient des négociateurs en haute mer avec des offres et des menaces à la fois pour essayer de trouver un arrangement. Dans tous les cas, je crois qu'il est important d'ajouter que, d'une manière générale, c'était toute la société du littoral qui fonctionnait dans une zone un peu grise, disons, entre le loyalisme entre les autorités d'une part et d'autre part l'illégalité la plus complète. Il était souvent difficile de savoir si ces flottilles de pêcheurs qu'on voyait partout ne se livraient pas aussi à la contrebande ou si elles ne servaient pas d'espions pour les flottes de pirates. D'ailleurs, les forces de l'ordre recouraient aussi à leur service pour se renseigner et les pêcheurs pouvaient même être enrôlés dans l'armée ou alors comme miliciens, et on les appelait alors des soldats pêcheurs, des yubing. Et de même, bien sûr, les pêcheurs étaient susceptibles de se joindre aux forces des pirates, lesquelles étaient d'une manière générale très bien informé de tout ce qui se passait sur le continent. Xu Zhetuo nous dit aussi à un moment, que certains notables de la côte, y compris des gens qui possèdent des titres académiques, qui vivent dans des bourgades murées, servent aussi de chefs de repère pour les bandits. Ça, c'est un terme intéressant. C'est-à-dire, Dao Wo, ce mot Wo, qui signifie un nid, et le mot courant quand on l'emploie avec Zhei ou Tao, hein, donc les bandits, c'est le nid des bandits, le repère, etc. Ces notables servent d'hôtes, de chefs, enfin de responsables, disons, de ces repères, et tout en ayant par ailleurs une vie tout à fait légale, ils servent d'abri pour les pirates qui ont besoin d'échapper aux poursuites, avec lesquelles ils sont évidemment en affaires. Et en fait, c'est exactement ce qu'on avait à la grande époque du commerce illégal au XVIe siècle, c'est-à-dire que de grands lettrés, le long de la côte, les gens qui avaient tous les honneurs, étaient en même temps les patrons de la piraterie et abritaient ces gens chez eux. Un des personnages les plus problématiques au moment où Xu Zhetuo est arrivé en fonction au Fujian, et il est très souvent question de lui dans le Suipu, était un certain Zheng Zhelong, j'ai dit un certain, mais il est très connu. Donc Zheng, j'écris long rapidement. Zheng Zhelong, qui donc est quelqu'un de très connu. Zheng Zhelong était le fils d'un petit fonctionnaire de Quanzhou, donc c'était un homme de Quanzhou. Il y était né en 1604. Il avait connu très vite une vie d'aventurier qui l'avait conduit à Macao, où il avait été d'ailleurs baptisé, il s'appelait aussi Nicolas, à Manille, puis au Japon. Et au Japon, il avait épousé une femme d'une famille locale qui lui avait donné un fils, lequel fils n'était autre que le célèbre Jun Chung-gong, ou Koxinga, dont j'ai raconté l'année dernière comment il avait été considéré comme une grave menace pour les Qing jusque dans les années 1670. En 1624, Jun Zhenong était devenu un des chefs de pirates les plus importants au large des côtes chinoises. Il était basé à Taïwan, donc Taïwan qui est en face du Fujian, bien sûr. Et d'après une chronique de l'époque, mais qui n'a été publiée que dans les années 1950, qui s'appelle le Haibin Dash, peu importe, c'est donc les grands événements sur la côte. D'après cette chronique, donc, la réussite de Jun Zhenong, c'est un détail important et intéressant, comme pirate, avait son origine dans une disette qui sévissait à Quanzhou. Et c'est à cause d'après cette chronique, c'est à cause de l'application inflexible de l'interdiction de transporter du grain par mer le long du Fujian, de peur que les pirates ne s'en emparent, évidemment. Or, pour aider, disons, transférer du grain d'une préfecture à l'autre au Fujian, il n'y avait pas d'autre moyen que par bateau, par cabotage, bien sûr. Donc, cette interdiction, l'application inflexible de cette interdiction avait poussé les gens affamés, enfin qui souffraient de cherté ou de disette, à Quanzhou, à se joindre à Jun Zhenong, si bien que, alors qu'il n'avait au début qu'un peu plus de 10 bateaux, c'est la source qui le dit comme ça, sous son commandement, puis une centaine, il s'était retrouvé, après cette famine, avec une flotte d'un millier de bâtiments. Mais Jun Zhenong gardait des contacts avec sa région natale, notamment avec un ancien préfet de Quanzhou, nommé Tsai, avec qui il s'était lié d'amitié dans sa jeunesse et qui, dans les années qui nous concernent en ce moment, était toujours posté à Quanzhou, mais avec le rang d'intendant comme Xu Zhetiao. Une première tentative de ralliement, donc confiée à ce monsieur Tsai, avait capoté, mais au moment de la prise de fonction de Xu Zhetiao, les négociations semblaient près d'aboutir. Comment les choses se sont passées exactement, ce n'est pas absolument clair. Dans ses discussions avec Xiong Wensan et les chefs du gouvernement du Fujian, Xu Zhetiao est pour la manière forte, contrairement aux notables de la région qui en tiennent apparemment pour des méthodes plus accommodantes, avec les pirates qui sont prêts à se rallier. Pour Xu Zhetiao, il convient d'aller chercher Jun Zhenong dans son repère, c'est-à-dire en prétextant des négociations, de le ramener pieds et poings liés et de le faire se prosterner dans la boue devant les portes du palais du gouverneur, ceci pour se racheter de tous ses crimes. Et après, on pourra discuter. Et il ne convient pas, dit-il encore, que ce soit Xiong Tingbi qui aille en personne, comme il semblait en avoir l'intention. Il faut envoyer l'intendant Tsai, justement, celui avec qui Jun Zhenong s'était lié dans sa jeunesse. Cela étant, il ne semble pas qu'on ait traité Jun aussi brutalement que le souhaitait Xu Zhetiao. La biographie de Xiong Wensan, dans l'histoire dynastique des Ming, dans le Mingxi, dit simplement que Xiong l'a bien traité, Shan Yu Zhe, donc il l'a traité avec égard, si bien que Jun Zhenong, qui avait déjà fait des signaux favorables, est tombé comme un fruit mûr et a combattu ensuite efficacement pour les Ming. D'autres sources, comme la chronique que je mentionnais à l'instant, parlent d'une manifestation de force de Xiong Wensan, lequel aurait mis sur pied une unité d'élite avec une canonnière dernier cri, et cela aurait convaincu Jun Zhenong de sauter le pas. On ne trouve en fait rien de tel dans le texte de Xu Zhetiao, même s'il dit que Xiong Wensan, tout comme lui-même d'ailleurs, était féru d'artillerie lourde et faisait fabriquer d'énormes pièces. Mais c'est un fait que la soumission de Jun Zhenong est mentionnée comme un fait accompli 2 mois après la discussion dont je parlais. Et à partir de là, la grande question va être de savoir combien sincère était le ralliement de Jun Zhenong, de s'assurer qu'il n'allait pas revenir à la piraterie dès la première contrariété, comme ils le faisaient tous, et comme allaient le faire d'ailleurs peu de temps après plusieurs de ses compagnons de route qui s'étaient également ralliés et dont on allait avoir le plus grand mal à venir à bout dans les 2 années suivantes. Il s'agissait aussi de s'assurer de mettre au travail Jun Zhenong en quelque sorte, c'est-à-dire de le faire participer au combat, tout en le contrôlant étroitement et surtout en évitant de lui laisser trop de troupes et d'approvisionnement. Je dirais que tout l'intérêt du Xuepu, ici, est de nous faire vivre ces incertitudes au jour le jour, avec un tel qui se plaint qu'il n'y a pas moyen de faire bouger Jun Zhenong quand on aurait besoin de lui, un autre qui signale son arrogance insupportable, des discussions sans fin pour savoir s'il faut lui accorder les moyens qu'il réclame, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est impossible d'entrer dans le détail, mais les sources conventionnelles justement, ne nous font rien apercevoir de tout cela. En revanche, il existe une source restée longtemps inédite qui n'est pas du tout un récit autobiographique comme le Suépou, mais une compilation de documents, de ses propres documents, rassemblés par un nommé Cao Lutai, qui avait été appointé magistrat d'une des tout près de Quanzhou, juste après son doctorat en 1625. Donc c'était un récemment arrivé. Cao Lutai. Lutai. Et sa compilation s'appelle le Tinghai. Tilué, autrement dit, un récit ou un compte-rendu de la pacification des mers. Ce sont en fait des documents purement administratifs. Ting. Voilà. C'est un ouvrage qui n'est pas, je ne sais pas d'où il sort, enfin il a été republié à Taïwan à l'époque moderne. Je ne sais pas du tout où se trouve le manuscrit, il n'est pas daté, il y a peu de dates dedans, mais enfin on arrive quand même à s'y retrouver. Et dans les missives et les rapports qu'adresse ce Cao Lutai, donc qui était simplement un magistrat local, à divers fonctionnaires et officiers de la région, y compris Xu Zhetiao et bien sûr Xiong Wensai, Cao Lutai se plaint fréquemment de l'attitude de Zheng Zhelong et du danger qu'il présente. Mais il admet aussi dans ses dernières missives, et à vrai dire la période couverte est assez courte, que Zheng Zhelong est également capable de remporter des succès. Cela étant, les documents compilés par Cao Lutai ne sont que cela, ce sont des documents administratifs, ce qui veut dire qu'il ne nous épargne aucun détail et aucun chiffre, mais qu'il parle la langue de bois du bureaucrate qui s'adresse, est-ce fonction, à ses pairs ou à ses supérieurs. Et autrement dit, il n'y a absolument aucune vie là-dedans, aucun détail. Et en outre, autre que des détails bureaucratiques, et en outre, il voit par définition les choses depuis son poste de Tong'an, donc qui était cette sous-préfecture à proximité de Quanzhou, où il se trouvait tout près de Zheng Zhelong, certes, mais d'où il ne pouvait pas avoir la même vision d'ensemble qu'un fonctionnaire placé près du centre, comme Xu Zhetiao, qui en outre ne cessait de circuler à travers toute la province, plutôt le long de toute la côte. Xu Zhetiao confirme cette évolution de Zheng Zhelong, les gages qu'il a donnés, son réel engagement dans la lutte contre la piraterie, en fin de compte, alors qu'au début il semblait le prendre d'assez haut. Une évolution dont les sources historiques standards parlent aussi, bien sûr, mais de façon très laconique et conventionnelle. Pour l'histoire, j'ajouterai, bien que ça dépasse la période qui nous concerne, j'ajouterai que Zheng Zhelong ne s'est jamais rebellé. Il a effectivement combattu jusqu'au bout pour les Ming et très efficacement. Il a reçu beaucoup d'honneurs, notamment sous les Ming du Sud, à partir de 1644. Mais que les Ming du Sud, il les a ensuite abandonnés lorsque le prince Ming, qui était réfugié à Amoy, donc encore plus au sud, tout à fait au sud de la côte du Fujian, a été obligé par les armées Qing de s'enfuir et que la partie, disons, des loyalistes Ming a pu paraître définitivement perdue. En revanche, alors que Zheng Zhelong s'est donc rallié aux Qing, qui l'ont tout de suite embarqué pour Pékin, en revanche, son fils, Zheng Chenggong, ainsi que son frère, il avait un frère qui s'appelle Zheng Zhuru, donc le même nom, mais il suffit de remplacer le dragon par le tigre, n'ont jamais accepté de rallier les Mandchous. Quoi qu'il en soit, dans le Suépu, contrairement aux sources conventionnelles, on a, si je puis dire, le sentiment du temps, des problèmes qui traînent en longueur, des incertitudes et des retours en arrière, des succès et des déceptions. Et cela est vrai non seulement pour cette affaire Zheng Zhelong, mais pour tous les sujets que Xu Zhetiao évoque pendant les presque 3 ans qu'il a passé au Fujian, avant de rentrer chez lui épuisé et malade, dans le courant de 1631. Je ne peux évidemment pas parler de tous ces sujets, mais il me suffira de mentionner les innombrables déplacements qu'il a effectués le long de la côte, et ce n'étaient pas des déplacements faciles, et parfois il parle même de son mal de mer quand la mer était grosse, qu'il a effectués le long de la côte pour voir l'état des troupes et celui des installations qui étaient souvent déplorables, pour superviser l'entraînement des soldats et également les sermonner, pour réorganiser la défense locale, qui était souvent absurdement organisée, essayer de résoudre les problèmes financiers, également s'occuper de la fabrication d'armement. Il était visiblement très intéressé par les armes à feu. Il y a des descriptions assez curieuses, d'ailleurs, parfois, de fusils et avec des balles qui ne vont pas droit, mais également, surtout, de canons. Il y a une sorte de rivalité entre Sion Wensan et Sujetiu, entre celui qui fabriquerait le plus gros canon. Également la construction de bateaux, qui était évidemment une des grandes spécialités du Futien. Il s'agissait aussi sans cesse de parer aux alertes aux pirates qui étaient régulièrement annoncées. Il parle aussi des interrogatoires de prisonniers qui, suivant les cas, sont libérés après leur interrogatoire ou exécutés sommairement, etc., etc. À quoi s'ajoutent toutes les décisions auxquelles Sujetiu participe, les avis qu'il donne, qui contredisent parfois ceux de Sion Wensan, mais il y avait visiblement une collaboration, disons, loyale entre les deux hommes, même si Sion Wensan était infiniment plus élevé en rang que Sujetiu, ses discussions avec d'innombrables collègues, et ainsi de suite. Aucune autre source, je crois, ne permet d'apercevoir de façon aussi immédiate, presque quotidienne par endroits, les difficultés énormes qu'affrontaient les autorités du Futien pendant ces années pour essayer de maintenir un semblant de sécurité, le manque de moyens, les incertitudes, la déréliction générale des dispositifs de défense, mais aussi les attaques et les destructions qui ne cessent pas, en dépit du ralliement de John Jelong. En fait, ce ralliement semble avoir été le seul véritable succès, et c'est en effet celui dont parlent toutes les sources historiques lorsqu'elles font le bilan de l'action de Sion Wensan. À peu près un an après son arrivée à Fuzhou, Sujetiu reconnaît, au cours d'une conversation en tête-à-tête avec le juge provincial, il reconnaît qu'au total, la situation locale est mauvaise. Il le dit très simplement, « Ti fang shi huai », et il s'en accuse. S'en tient-il réellement responsable lui-même? Il ne le dit pas, mais il admet que rien ne va, malgré l'activité épuisante qu'il a déployée depuis un an. Et dernière chose qu'aucune autre source ne nous décrirait, c'est l'alarme et la consternation avec lesquelles a été reçue par les autorités de Fuzhou, à l'extrême fin de 1629, la nouvelle que, tout d'un coup, c'était la capitale même de l'Empire qui était directement menacée par les Mandchous à la suite d'un raid que ceux-ci avaient réussi à faire en passant non pas par où on les attendait, mais en faisant un crochet par la Mongolie, si je puis dire. Et c'est visiblement la panique à Pékin. Et à Fuzhou aussi, on s'inquiète, par exemple, de ne pas avoir reçu la Gazette de Pékin pendant 2 jours, pour vous donner une idée, justement, de la régularité avec laquelle ces informations arrivaient de la capitale, même dans un endroit aussi éloigné que le Futien. Sion Wensan décide d'envoyer 2000 hommes, c'est pas très clair de savoir si c'est 2000 ou 20 000, mais en tout cas d'envoyer des troupes à la rescousse, des troupes du Futien pour participer à la défense de Pékin, et Sujetiu trouve que ça n'a pas beaucoup de sens d'expédier là-bas des soldats du Futien, dont la majorité vont déserter en cours de route, mais c'était cette expédition de troupes pour défendre la capitale était en fait une demande de Pékin, ce qui n'est pas précisé ici, et l'empereur demandait aussi, mais ça c'est précisé, une contribution à tous les fonctionnaires de l'Empire pour financer la défense, donc sur leur salaire, sur leurs revenus, ce qui, pour ceux du Futien, allait s'ajouter à la contribution qu'ils devaient également verser pour financer l'envoi des fameuses troupes de secours qui devaient aller à Pékin. En bref, ce sentiment dont j'ai parlé, à savoir qu'on est entré dans une période de crise dynastique, ce sentiment est ici très sensible, même si, par ailleurs, la vie continue. Et la vie, dans le cas présent, c'est celle que poursuit Sujetiu au milieu de toutes ses activités, ses préoccupations personnelles, ses inquiétudes, ses doutes sur lui-même, les idées dont il discute avec ses amis ou avec son fils, son amour de la nature et de la solitude, etc. Et de tout cela, qui fait aussi du Shuepu un texte tellement exceptionnel et en même temps tellement caractéristique de son époque, de tout cela, donc, je dirai quelques mots la prochaine fois avant de passer aux années 1640 et d'évoquer cette fois certains aspects de la crise finale de la dynastie des Ming, toujours à travers les écrits et les témoignages à la première personne. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.